par les honneurs militaires. Monsieur Mermet, merci, attendez mon appel. Merci encore.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est pour passer un message aux grévistes de la SNCF et les intermittents du spectacle. Ce matin sur France Inter, à 9h, ils ont passé un extrait du discours de M. Manuel Valls qui disait que les Français ne soutenaient pas la grève. Je voulais vous dire, ne l'écoutez pas, M. Valls ment. Moi, je suis français, je ne suis pas cheminot, j'ai personne de ma famille qui bosse à la SNCF, mais je vous soutiens complètement, voilà, il n'y a pas de problème. Notamment parce que quand le chef de gare La Roche-sur-Yon m'affirme que ça coûte moins cher de faire venir une locomotive de Nantes à La Roche-sur-Yon, de la faire venir en camion grue, que de la faire rouler sur rail pour remplacer une locomotive en panne à La Roche-sur-Yon, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les intermittents du spectacle, c'est pareil, j'ai mon frère qui est intermittent, et quand il se fait des mois, plus de 1000 euros, putain, c'est le bonheur. Donc je vous soutiens, et puis M. Manuel Valls qui s'inquiète que la gauche ne risque de ne pas passer au second tour en 2017, c'est gentil, c'est la première fois qu'un mec de droite pense à l'avenir de la gauche, c'est gentil, merci beaucoup M. Valls.
Amis de l'île et du Nord, bonjour. Ce lundi soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille, le traité transatlantique. Se mobiliser et agir contre le TAFTA. Venez ce soir nombreux à 20h au Café Repère L'Imaginaire.
Le Parlement européen a surveillé la dernière saison de foot européenne. Il a dénombré pas moins de 110 matchs truqués de façon évidente, et plus de 300 matchs d'ailleurs, sur lesquels il y a un très fort doute. François Ruffin, c'est pas un bouquin qu'il fallait qu'il édite, c'est une revue mensuelle.
Une bière et quelques cacahuètes dans un bistrot presque désert, voilà les conditions dans lesquelles j'ai regardé, ici à Rio de Janeiro, la victoire de la France sur le Honduras. Par contre, juste après, Argentine, Bosnie, toute la ville vibrait, grondait, hurlait de Copacabana au Maracana. Voilà ce que nous avons vécu hier. Mais entre les deux, nous avons entendu hurler « Nous aimons le football, nous haïssons la FIFA ». Ah ah, ça, ça nous intéresse. Et puis il y a évidemment tout le mouvement social qui gronde toujours au Brésil, qui gronde aussi dans cette ville, malgré tous ceux qui voudraient faire taire ce mouvement social. C'est ce qui nous intéresse ici, le mondial et le social. Le mondial cassera-t-il le social? Le social arrivera-t-il à triompher et à exister malgré le rouleau compresseur de la coupe? Voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui. Depuis Rio de Janeiro, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01-56-40-37-37.
Bonjour à toute l'équipe. Eh bien, puisque vous partez au Brésil, moi je vous recommanderais d'aller à Brasilia, sur les terrains du lycée français François Mitterrand, où se déroule la Coupe du Monde des écoles françaises à l'étranger, et où un certain nombre de personnages, dont Lilian Thuram, essayent d'apprendre autre chose que l'économie mondialisée à ces jeunes élèves. C'est passionnant, et ben, ça serait bien que vous nous en faisiez un petit reportage. Voilà, bon voyage à vous, à bientôt.
Oui, bonjour Daniel, c'est Henri, citoyen de la planète Terre. Je t'ai entendu hier poser la question, pourquoi les fans de foot continuent-ils d'aimer un sport où la corruption règne? La corruption est entrée dans les mœurs, on l'a banalisée, elle est partout. Après l'affaire Cahuzac, un sondage a révélé qu'une majorité de Français pensent qu'un élu, avant d'être honnête, doit être efficace. Tu as la réponse. Salut Daniel.
Voilà, la répression, répression. La répression commence.
Ici, c'est les jeunes, c'est les étudiants, c'est ça? On veut pas de cette coupe du monde.
Tous les 4 ans, nous vivons 4 semaines exceptionnelles qui nous rassemble, où nous partageons les mêmes émotions et les mêmes rêves. Pendant 4 semaines, nous sommes unis autour d'un même espoir et partageons les mêmes valeurs. Et si le monde ressemblait davantage à la Coupe du Monde de la FIFA.
C'est pas fini, ça doit finir. Je veux la fin de la police militaire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, depuis Rio de Janeiro. La coupe est pleine.
Flight number 2, arriving from...
Comité populaire, Copa. Ora FIFA. Le comité populaire, dehors la FIFA.
Ah, voilà, on les a trouvés. Dehors la FIFA.
Et depuis, a gente fala mais. Agora é o som e o samba e o marco de pena aqui.
Ah, c'est la samba contre la FIFA.
Ah, génial. Là, c'est extraordinaire. On est dans une rue de Rio. C'est vachement sympa. Il y a des tables, de la bière, des chaises, des gens. Et une sono d'enfer qui va péter d'une seconde à l'autre. Contre la FIFA, dehors la FIFA.
Dégage, la FIFA, dégage.
Contre la FIFA. Et pourquoi vous êtes contre la FIFA? Pourquoi fora la FIFA?
Porque o problema da FIFA tem tirado os problemas dos mais pobres, do direito da cidade dos mais pobres.
Le problème avec la FIFA, c'est qu'ils nous ont enlevé des droits aux pauvres de la ville.
Direito de moradia, direito de trabalhar, direito de viver do jeito que a gente vive nesse país.
Le droit du logement, le droit au travail, le droit de vivre comme nous on vit dans ce pays.
A FIFA impõe uma cultura que não é nossa.
La FIFA elle a imposé une culture, un mode de vie qui n'est pas le nôtre.
Em momento, né, do Brasil tá passando de protesto, queria dedicar a presidente Dilma Rousseff. Brasil de muitos, o Brasil de poucos, Brasil de espertos, o Brasil de tolos. Me sinto derrotado nesse Brasil campeão, sonhando em Copa do Mundo, onde impera o mundo da corrupção. Da corrupção, da corrupção, da corrupção, disfarçando o passado, maquiando o futuro. Tanta coisa a resolver, só pensa em Copa do Mundo. A saúde tá um caos, educação tá um absurdo. O povo pode ser leigo, mas não é cego nem burro. Aí político, tá fudido comigo, parceiro, que comigo tu não arruma nada. Tá fudido.
Voilà, c'est génial. Et là, on a trouvé vraiment l'endroit qu'il nous faut. Rio, la Coupe du Monde. Et dans cette rue, les femmes, du public, de la bière, ça danse. Et c'est des gens qui font partie de ceux qui s'opposent carrément à la FIFA. Mais enfin, c'est quand même très gay. On aime quand même le foot. On n'est pas du tout contre le foot, mais on est contre l'emprise de la FIFA sur le foot au Brésil, sur le Brésil, sur la politique. Et on est aussi contre cette classe politique qui a accepté cette domination. Et on le dit, c'est un public très varié. Il y a des jeunes là à côté de nous. Il y a des gens plus âgés. Il y a toutes sortes de physiques, de milieux, et c'est très gai, et on danse, et on est à Rio. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis étudiant et je suis économiste.
Je suis étudiant économiste.
Caillot, alors qu'est-ce que tu as contre la FIFA?
Bon, il y a plein de choses que a gente tem contre la FIFA, comme le modo que ela faz a Copa do Mundo, que virou de um campeonato de futebol, simplesmente virou um grande negócio.
Oui, on a plusieurs choses contre la FIFA. D'abord le fait que comment elle a fait qu'un championnat mondial devienne un grand business.
ela afeta a população brasileira das mais variadas formas, desde as camadas mais pobres e desassistidas pelo Estado, que está sendo removidas milhares de pessoas.
Ela afeta a população brasileira de diferentes formas, depuis les couches les plus populaires qui sont expulsées à côté des stades, il y a des milliers de personnes qui ont été expulsées.
Também parte dessa população que trabalha na rua como camelô, trabalhador informal, está sendo limpada, entre aspas, das ruas, está tendo seu direito ao trabalho reprimido.
C'est pareil pour les ambulants, pour les travailleurs informels qui sont nettoyés entre guillemets de la ville, leurs droits au travail ne sont pas respectés.
Ça concerne beaucoup de monde.
São 100 mil que vivem do trabalho informal no Rio de Janeiro e está tendo regulações e restrições ao trabalho deles.
5 mil pessoas que trabalham de ce travail ambulant et qui ont donc des restrictions et des règles qui leur sont imposées en ce moment.
Tem uma região de no mínimo 2 km no entorno do estádio das FanFests que não vai poder trabalho informal e só pode ser vendidas marcas, então afeta também os pequenos empresários dos bares e restaurantes do entorno.
Alors, donc les zones d'exclusion de la FIFA, ce sont 2 km autour du stade ou autour de la FanFest FIFA. Où ces gens-là ne peuvent pas travailler, mais également ça crée un problème pour tous les petits commerçants autour, les bars, etc., qui ne vont pas pouvoir vendre leurs produits, puisque c'est seulement les marques sponsorisées de la FIFA qui peuvent.
C'est ça, c'est-à-dire Coca-Cola et Budweiser. Les autres produits sont interdits.
Os patrocinadores em geral que só podem ser vendidos nessas áreas.
Il y en a un peu plus, mais oui, c'est ça, c'est que les sponsors officiels de la FIFA qui peuvent vendre leurs produits dans ces zones-là.
Vibrez au rythme du Brésil avec Coca-Cola en collectionnant les 4 verres spéciales Coupe du Monde. 100 000 verres disponibles. Rendez-vous dès le 29 mars dans les points d'échange avec 6 bouchons dorés plus 50 centimes ou 8 bouchons violets plus 50 centimes. Vibrez au rythme du Brésil avec Coca-Cola en partenariat avec Andy Bouchon.
Marcelo Edmundo.
Je suis Marcelo Edmundo.
Eu sou da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares.
Je suis de la direction d'une organisation des mouvements populaires nationaux.
E sou também presidente do bloco de samba, o Samba Brilha, que faz essa roda de samba, além de sair do carnaval.
Et je suis aussi président du bloco de la samba qu'on vient d'entendre là et qui sort pendant le carnaval et aussi maintenant.
Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt Marcelo Edmundo? Fora a FIFA.
A FIFA assinou um contrato com o Brasil em que ela é soberana, inclusive, às leis nacionais.
Donc la FIFA a signé un contrat avec le gouvernement et dans ce contrat elle devient souveraine.
É realmente um poder absurdo, absoluto, que inclusive detém algumas marcas no país.
C'est vraiment un pouvoir absolu et absurde et elle détient même certaines marques dans le pays.
Comme par exemple Pagode, tout ce qui fait référence à Copa du Monde, à Brasil 2014, tout est de FIFA.
Le mot Pagode, qui est un espace festif, Brésil 2014, Coupe du Monde, c'est elle qui a tous les droits sur ces mots, sur ces sigles.
Si, si. Mais enfin quand même. On nous dit que le Brésil a dépensé plus de 11 milliards de dollars pour cette Coupe du Monde. Ce n'est pas la FIFA qui l'a obligé à dépenser ces 11 milliards.
Na realidade, chegou-se ao total cerca de 25 bilhões de reais, né? Sendo que da iniciativa privada, menos de 1%, ou é dinheiro investimento público direto ou financiamento público.
En réalité, ça fait effectivement 25 milliards de reais, dont 1% est de l'argent privé, et le reste, soit de l'investissement public direct, soit des finances publiques.
A FIFA não obrigou, mas a FIFA tem um poder de dominar o esporte mais popular do país.
La FIFA effectivement n'a pas obligé, mais elle a ce pouvoir de dominer le sport le plus populaire du pays.
E o governo brasileiro tem a sua parcela grande de culpa porque ela se submeteu às regras da FIFA.
Et le gouvernement bien sûr sa part de responsabilité parce qu'il s'est soumis au dictat de la FIFA.
Ela não nem o lucro dela jamais vai ser ameaçado. Se não houver Copa, o governo brasileiro vai pagar o suposto o lucro presumido.
Et ses bénéfices sont garantis même s'il n'y avait pas eu de Coupe du monde, c'était le Brésil qui allait devoir assumer ce qu'elle aurait dû gagner.
Quel écho vous avez avec votre mouvement contre la FIFA ici là dans Rio? Là, il y a une fête dans la rue, là, c'est très joyeux. Mais est-ce que les gens vous suivent ou bien ils disent « Mais non, ces idiots-là, ils vont nous faire perdre la coupe ».
Agora, não podemos confundir o futebol com a FIFA.
On ne peut pas évidemment mélanger le football et la FIFA.
Até porque, se você for durante os Jogos do Brasil numa favela, o povo vai estar assistindo os jogos e torcendo.
Parce que si vous allez dans une favela, vous allez voir à quel point le peuple est heureux et, oui. et suit le match.
E ele tem consciência dessa situação, mas ele tem todo o direito de torcer pela sua paixão pelo futebol, pela seleção brasileira.
Le peuple est conscient de cette situation avec la FIFA, mais il a le droit aussi de profiter d'une bonne partie de football et de vouloir
regarder un bon match, même si c'est une contradiction.
Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Alors bien sûr, la FIFA veut imposer ses produits, c'est-à-dire Coca-Cola, c'est-à-dire McDonald's, mais c'est tout à fait possible encore d'y échapper, même à Copacabana. Il suffit d'aller dans les ruelles derrière, de s'éloigner un petit peu du front de mer, et nous voilà avec l'ami Laercio dans un bistrot tout à fait sympa, où on boit de la bière, on grignote des plats de viande séchée et de manioc grillé en regardant le match. Un très très bon boulot au Brésil en ce moment, vendre des écrans de télé et aussi vendre de la bière.
C'est Italie contre
Angleterre.
Ah oui, aïe aïe, Italie-Angleterre là. On a deux écrans sous les yeux pour suivre le match et la herse. On rencontre quand même pas mal de gens qui sont choqués, qui sont ulcérés par la FIFA. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus ?
Aussi, parce que la FIFA, elle a fait certaines pressions sur le gouvernement pour avoir une loi qui pour soi-disant régler comment ça se passerait. Il y a un but des Anglais. Comment ça se passerait la Coupe du Monde. Mais j'ai entendu, j'ai lu sur le site de la FIFA, que là, ce n'était pas la FIFA qui a demandé de ne pas payer des impôts. C'était les gouvernements qui a fait un cadeau à la FIFA. Donc, la FIFA ne va pas payer 1,1 milliard d'impôts qu'elle devrait payer pour l'organisation de la Coupe du Monde.
Pour ceux qui vont gagner, quoi.
Oui, exactement. Non, mais ils vont avoir un profit de 4 milliards.
Oui, c'est ça, mais payer des impôts,
mais ils ne vont pas payer les impôts. Alors, il paraît que la FIFA n'a demandé que 6 stades. Et le gouvernement a fait construire 12.
12. Comment tu expliques ça? Pour quelle raison?
Parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent qui devrait être attribué à la santé, à l'éducation, à l'assainissement. Ça, c'est le gros problème de la Coupe du Monde. C'est à cause de ça que les gens sont très, très déçus de tout ce qui a été fait. Autrement, la question du prix des stades, parce que ça a coûté trop, trop cher. Il y a des stades. Celui de Brasilia a coûté, 1,2 milliard. 200 millions.
Mais est-ce que ce n'est pas à chaque fois comme ça? Est-ce que pour autant, les Brésiliens regardent moins le foot, s'intéressent moins au foot? Non, ils sont toujours aussi passionnés. Malgré ça, vous êtes toujours aussi passionnés.
Oui, les Brésiliens sont toujours passionnés de foot. Ici, la grosse, grosse partie des gens ont un club de leur préférence. Et aussi, il n'y avait pas un grand intérêt par la Coupe du Monde à cause de tout ce, et particulièrement par l'équipe nationale. Mais la télé, ils ont intérêt, bien sûr, que les gens s'intéressent à la Coupe du Monde, à l'équipe, etc. Et maintenant, ils font beaucoup, beaucoup de pubs. Si tu ouvres la presse, ils ne parlent que de la Coupe du Monde, de tout ça, pour essayer d'attirer davantage l'intérêt des gens. Et ils ont réussi partiellement, parce qu'à partir du moment que la Coupe a commencé, que le Brésil a débuté dans la Coupe, alors à ce moment-là, l'intérêt a augmenté, quoi. C'est normal.
Alors à chaque fois, la promesse est la même avec une Coupe du Monde. Hein. Ça coûte, mais surtout, nous dit-on, ça rapporte la FIFA. Par exemple, la Fédération Internationale de Football promet des emplois et de la croissance, des bénéfices à vie, a même dit la présidente brésilienne la nuit dernière. C'est vrai?
Non, je suis désolée, mais non.
RTL, 12 juin 2014.
Une banque américaine a fait une étude sur toutes les Coupes du Monde de 1954 en Suisse à 2006 en Allemagne. Résultat, dans les pays organisateurs, la croissance économique a été inférieure au rythme habituel. Regardons ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010. Le gouvernement avait annoncé plus 0,5% de croissance. La hausse n'a été que de 0,1%. Les dépenses, plus 30%, soit 7 milliards d'euros. On attendait 480 000 touristes qui devaient dépenser 1 milliard. En fait, il y en a eu 309 000 et ils ont dépensé beaucoup moins. Résultat, la Coupe du Monde a coûté 100 $ par habitant. Au Brésil, plus de 10 milliards nécessaires pour 12 stades, soit 50 $ de coût pour le contribuable.
Il y a bien quelqu'un qui gagne? Qui?
La FIFA, la Fédération Internationale de Foot, environ 4 milliards sur cette Coupe du Monde. Le Brésil ne gagnera que quelques millions. La FIFA vante un beau rêve aux pays organisateurs, mais c'est elle qui repart les poches pleines en laissant l'ardoise aux pays hôtes. Et en plus, les profits gérés par les comités d'organisation et donc la FIFA sont exemptés d'impôts, donc aucune recette fiscale pour le pays.
Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a brigar. Tá meio do caminho, de cabeça baixa e meio danado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este passa, deixa a praia descoberta. Uma onda vai pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade, pra dar e vender, se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer.
On est où exactement là, Anne?
On est sur la place centrale du quartier de Tijuca.
Sainte-Spénia. C'est le métro Sainte-Spénia.
Ouais, c'est le nom de la place aussi.
Là, on est dimanche après-midi, il est 15h30.
16h. Le coup de sifflet a été donné, Daniel.
Ah, le match.
Mais où as-tu la tête?
Le match France-Honduras a débuté, mais sur cette place, on ne s'en soucie guère. Là-bas, il y a une centaine de personnes, dont 50 journalistes, équipés d'appareils photo, de caméras, de casques et de masques à gaz. Il y a donc les autres, je suppose que ce sont des potentiels manifestants. Ici, il y a des papis sous ce auvent là qui sont en train de jouer aux cartes. C'est très bon enfant, il y a des petits enfants partout, machin, etc. Une certaine tension dans l'air, parce que si on se retourne, on voit qu'il y a la police qui arrive débonnaire comme à son habitude. Ça, c'est ceux qui avancent gentiment, doucement. Des gars assez bien nourris, assez bien entraînés, avec le bâton à la main. Et derrière, là-bas, il y a ceux qui ont les boucliers. Tout ça, ça fait pas beaucoup de monde. C'est peut-être le début d'une manif. Là, il y a une petite installation tout à fait débonnaire qui représente un maillot brésilien, le maillot de Ronaldinho, mais qui est divisé en deux. Il y a une partie brillante, le maillot, au pied duquel il y a un petit tapis vert impeccable, une pelouse, une bouteille de Coca-Cola en or, une chaussure en or. Et de l'autre côté, c'est 50%, c'est l'autre partie du maillot qui est tout terreux, tout dégueulasse, avec une pauvre tongue. Et voilà, ça c'est la misère, l'alcoolisme, etc. Voilà les deux faces du Brésil qui sont représentées là. Bon, alors manif, on est entouré par la police qui nous garde. Hein. Christopher Gaffney, programme de...
Post-graduation en architecture et urbanisme dans l'Université fédérale de Rio.
D'accord, d'accord. Christopher, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation dans laquelle on est là, actuellement?
Estamos numa praça pública bem conhecida, num bairro de classe média, perto ao Maracanã.
On est sur une place publique assez connue, dans un quartier de la classe moyenne, à côté du Maracanã.
On a des policiers autour de nous. On a dit qu'avec l'ouverture du mondial, les affrontements allaient disparaître ou se réduire. C'est ce qui a l'air de se passer.
Au começo das manifestações durante a Copa foram violentamente reprimidas com força máxima da polícia.
Et les premières manifestations qu'on a vues là cette semaine avec le début de la Coupe du Monde ont été très très violemment réprimées avec une force maximum de la police.
Esse teve o efeito de com a classe média principalmente para eles ficarem em casa por causa do medo e para aproveitar o clima da Copa.
E ça, bah, ça a provoqué encore plus de peur en particulier dans la classe moyenne qui font que bah ils restent chez eux puis en plus ils profitent de la coupe.
Alors pendant qu'on est en train de parler, il y a des manifestants qui sont en train de brandir une banderole, en train de tendre une banderole FIFA go home.
Claro que ninguém, FIFA é entendido como um inimigo.
FIFA é considerado como l'ennemi.
E FIFA é um alvo muito fácil.
La FIFA é uma cible très facile.
E é muito mais fácil dizer FIFA vai embora de reformar país.
C'est bien plus facile de dire FIFA dehors que de réformer un pays.
Oui, on peut très bien critiquer, comme tu le fais radicalement, le gouvernement du Brésil. Et critiquer aussi la FIFA.
Sim, porque os governantes estão assim mãos dadas com a FIFA. Então tem que dizer, também tem gente dizendo Dilma, o pai, o governador vai embora também.
Oui, parce que la FIFA est main dans la main avec le gouvernement et de fait il y a des manifestants qui demandent também aussi à la présidente Dilma ou au maire de Rio Eduardo Paes, au gouverneur dehors, qui critiquent les
les autorités brésiliennes.
Et toi, est-ce que tu es contre la coupe?
Sim e não.
Oui et non.
É complicado. Porque eu também, eu amo futebol.
C'est compliqué parce que moi aussi j'aime le football.
Eu amo, eu posso contar todos os campeões do mundo até 1924.
Je peux vous raconter toutes les coupes du monde depuis 1924.
E essa a cultura é essa. E temos que reapropriar essa cultura.
Ça c'est notre culture et on doit s'en réapproprier.
Sou contra o modelo da Copa do Mundo.
Je suis contre le modèle de la Coupe du Monde.
Sou contra o business model, é complexo industrial.
Je suis contre ce complexe industriel.
Que tem segurança, que tem mídia, que tem turismo, que tem estádios padrão FIFA, que tem todo esse espetáculo.
Qui a des assurances, qui a des médias, qui a des touristes, qui a toutes ces normes FIFA, des stades aux normes FIFA, ce spectacle.
É que é absurdo. É absurdo.
Et ça, c'est absurde.
Pour toi, ce qui se passe là, cette manifestation, c'est une volonté de réappropriation populaire?
Essa é a ideia de reapropriação. Porque desta praça aqui saiu muitas marchas até o Maracanã. Então descemos, congregamos aqui e vamos até o Maracanã para protestar contra a privatização.
Oui, c'est vraiment l'idée, c'est réapproprier. De fait, sur cette place est partie beaucoup de manifestations jusqu'au Maracanã contre la privatisation du Maracanã.
D'accord. Mais le moyen de cette privatisation que tu dénonces, c'est la FIFA.
Non. C'est le gouvernement brésilien qui est privatisant.
Non, c'est le gouvernement brésilien qui privatise.
Le Estado do Rio de Janeiro est le dono du Estádio do Maracanã.
L'État de Rio est le propriétaire du Maracanã.
Foi destruído com dinheiro público. Reconstruído com dinheiro público.
Il a été détruit avec de l'argent public, reconstruit avec de l'argent public.
Et privatisé pour 35 ans.
Et privatisé pour 35 ans.
Et ao longo deste contrato, entre aspas, de privatização, o governo vai receber 18% do valor investido no estádio.
E pendant 35 ans de ce contrat, entre guillemets, l'État va recevoir 18% de ce qu'il aura dépensé.
O Maracanã é um símbolo máximo do futebol brasileiro.
Le Maracanã, c'est le plus grand symbole, le symbole absolu du football brésilien.
E se pensamos num estádio como uma cidade, vemos que os custos estão subindo e os mais pobres estão sendo expulsos.
Et si on pense à ce stade comme une ville, on voit que les prix sont en train d'augmenter et les pauvres sont expulsés.
Então, o pobre não pertence nem ao estádio, nem à cidade.
Et le pauvre n'appartient plus ni au stade ni à la ville.
Le foot est une ressource formidable qui repose sur une énergie extraordinaire qui est la passion que vous avez pour le foot. Tant que cette passion dure, tant que cette foi pour le foot dure, pour cette action dramatique parfaite.
Sim. É um modelo de negócio fantástico para a FIFA, porque eles...
É um modelo de business parfait para a FIFA.
Parfait, porque só tem que vender paixão.
A única coisa que vendem é a paixão.
Voilà.
E, por exemplo, o Comitê Internacional Olímpico tem que vender moralidade.
Alors que o Comitê Olímpico Internacional deve vendre de la morale.
É muito mais vulnerável. Então a FIFA é isenta de qualquer responsabilidade porque a paixão enlouquece.
Eles são bem mais vulneráveis, o Comitê Olímpico, alors que a FIFA, ela é exempta de tudo isso. Ela deve justo proposer a paixão.
É sem fim, essa história. É sem fim.
Sim.
A Copa, acho que é um momento de suspender as dúvidas quando a bola está rolando.
La coupe, c'est justement le moment où on suspend toutes les interrogations au moment où le ballon roule.
Porque não há confiança em los dirigentes de futebol do CBF, que é o futebol brasileiro, nem na FIFA.
Parce qu'il n'y a pas de confiance dans les dirigeants du football, ni dans la Confédération brésilienne de football, ni dans la FIFA.
Qu'est-ce qui serait bien en matière de football pour un pays comme le Brésil? Demain, tu es ministre des sports, ok? Quel serait ton projet?
Eu nacionalizaria o CBF.
Je nationaliserai la Confédération brésilienne de football.
E começar de novo, começar de zero.
Et on recommencerait tout à zéro.
Porque é uma entidade privada agora, não tem contabilidade, não tem nada aberta no futebol brasileiro. Assim, nacionalizando pode criar outras influências.
C'est une entité privée qui n'a pas de comptabilité, qui ne rend pas de compte au public. Et donc, si on nationalise, on pourrait à de nouveau ouvrir cela pour le football.
On veut pas de cette Coupe du Monde. Ah, ici c'est les jeunes, hein, c'est les lycées, c'est les étudiants, c'est ça? Now fight their Copa, il n'y aura pas de Coupe du Monde.
On veut l'éducation, la santé, on s'en fout si le Brésil n'est pas champion. C'est pas fini, ça doit finir, je veux la fin de la police militaire. Sans hypocrisie, cette police tue des pauvres tous les jours. La vérité est dure, l'UPP, l'unité de police pacification, est aussi une dictature.
Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici, Lucia?
Eu vim para protestar, fazer um protesto. Eu sou na ocupação, tá? Sem tetos, e por isso eu vim acompanhá-los.
Je suis venue comme les autres pour protester et aussi pour l'occupation qu'on est en train de réaliser avec les sans-toits.
Mais on avait cru que vous aviez obtenu satisfaction auprès du gouvernement. On a compris que le mouvement des sans-toits était particulièrement fort dans toute cette mobilisation depuis un an, mais que là, à la veille de l'ouverture de la Coupe, vous aviez obtenu satisfaction ou du moins des arrangements acceptables avec le gouvernement.
Não, pelo contrário, não há nenhuma negociação com o governo.
Não, ao contrário, não há nenhuma negociação com o governo.
Eu sou moradora de uma ocupação de sem tetos, porque eu pagava até dia 31 de janeiro R$480 em um quarto para morar. Fiquei desempregada.
Je fais partie de cette occupation, je suis sans toit. Pourquoi? Parce que jusqu'au 31 janvier, je payais R$480 de loyer pour une seule chambre et je me suis retrouvée au chômage.
Quel lien vous faites entre votre mouvement, cette occupation et la coupe?
Tremendo contraste, né? A população, o brasileiro sem casa para morar, sem teto para morar, e eles gastando milhões e milhões e não pode nos oferecer, sabe, um benefício. Eu, por exemplo, eu tenho um benefício de R$70 só.
Le contraste est énorme, la contradiction est énorme entre le fait que nous sommes des Brésiliens qui n'avons pas de logement et des millions, des milliards qui ont été dépensés pour cette Coupe du Monde.
Je suis brasileira, mas eu tenho vergonha de dizer que sou honesta nesse país. Quem é honesto nesse país tem vergonha.
Je voudrais juste dire que je suis brésilienne et j'ai honte. Tous les gens honnêtes dans ce pays, on a honte.
El pueblo está siendo tratado como esclavo.
Le peuple est traité comme un esclave.
Nuestras leyes de trabajo están siendo cagadas.
Il chie sur nos lois du travail.
El pueblo recibe un salario de mierda.
Le peuple reçoit un salaire de merde.
Es compelido a trabajar mucho más horas de trabajo y producir mucho más de que el justo salario.
Et il doit travailler de plus en plus et produire de plus en plus pour un salaire qui ne vaut pas la peine.
Il y a des jeunes là qui commencent à mettre les foulards noirs et les masques derrière la banderole FIFA Go Home. Voilà, donc il y a quand même toute une flopée de médias, mais c'est plutôt là les médias alternatifs qui sont là. Hein.
Il y a les deux, il y a les médias internationaux et les médias alternatifs brésiliens. Va te faire foutre la coupe.
Ah, solidarité des motards brésiliens avec les manifestants.
Calme, déjà.
Et au milieu, il y a un Indien avec des plumes et une maracas.
Alors ce sont les Indiens de la maison des Indiens, c'est ça, qui a été occupé pendant plus d'un an à côté du Maracana.
Aldea, Helsinki, Aldea, Helsinki, Aldea, Helsinki, Aldea, Helsinki,
Aldea. Aldea résiste, ça veut dire
l'aldea Maracana, le village Maracana résiste.
Aldea, Helsinki, Aldea, Helsinki.
Estou transmitindo aqui a manifestação Mídia Livre Morre Diabo, direto da Saint-Spain, Rio de Janeiro, Brasil.
Donc il y a un média alternatif qui s'appelle Les Ninjas, c'est ça?
Eux, ils filment en direct toutes les manifestations. Ils ont permis en même temps de filmer beaucoup d'abus policiers. Ils ont aidé dans les actions judiciaires qu'il y a eu pour libérer des détenus des manifestations. Et je parle français.
Je suis en train de transmettre la manifestation à Rio, à la place Saint-Spain. Aujourd'hui, c'est le début du Maracanã dans la Coupe du Monde. C'est le premier jour dans les Maracanã et nous sommes là pour protester pour les droits sociaux, pour une meilleure éducation, meilleure santé, transport et habitation. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a dépensé beaucoup de l'argent dans les stadiums et n'a pas dépensé de l'argent avec les problèmes de base comme l'éducation, etc. Donc nous sommes très concernés avec ces problèmes-là parce que la police brésilienne est très violente. Ces sons là,
c'est... Là, il y a la police, ouais, c'est ça.
Voilà, un hélicoptère.
Avec un projecteur.
Avec un projecteur qui illumine la manifestation et essaye de nous faire peur. Mais on n'a pas peur. Nous sommes dans la rue, on va rester dans la rue pendant toute la Coupe du Monde. C'est ça.
Outra repórter, ela está traduzindo agora que eu estou falando em português. Antes eu falei em francês, agora eu estou falando em português.
C'est hélicoptère contre Maracas, quand même, hein. C'est désigual un peu les forces en présence. Quand même. Voilà, il y a des gens aux fenêtres hein, qui soutiennent, qui lèvent le poing.
Aqui porque a gente não acha justo que o dinheiro do povo brasileiro vá para uma Copa enquanto nós não temos escola nem educação.
Moi je suis là parce que je trouve que c'est vraiment pas juste que le peuple brésilien paye tout cet argent pour la Coupe du Monde tant qu'on n'a pas des écoles, des hôpitaux.
Eles colocaram militares dentro das favelas do Rio para reprimir a população pobre.
Ils ont mis des militaires à l'intérieur des favelas de Rio de Janeiro pour réprimer la population pauvre.
Pourquoi? Parce qu'ils queriam fazer un bon papel diante dos estrangeiros qui viennent pour la Copa.
Tout ça parce qu'ils voulaient montrer une bonne image devant les étrangers qui sont venus pour la Coupe.
Vocês procurem as estatísticas de negros pobres que moram nas favelas do Rio de Janeiro, quantos foram mortos de 5 anos para cá?
E se vous recherchez les statistiques du nombre de jeunes pauvres noirs des favelas qui ont été tués ces 5 dernières années?
E agora toda a população pobre de rua foi fechada nos abrigos.
Et maintenant la population de rue qui a été mise dans les abris pour pas qu'on les voie.
E abrigos onde cabia 150 pessoas tem 400 pessoas.
Dans des refuges où il y a qui sont pour normalement 150 personnes, en fait, ils sont 450.
Isso para que os turistas não vejam o que a gente vive no dia a dia no Brasil inteiro.
Tout ça pour que les touristes ne voient pas notre quotidien, tout ce que nous on voit dans tout le Brésil.
É uma vergonha o povo brasileiro, que é o povo que sempre gostou do futebol e que gosta do futebol, e ele não tem como comemorar.
C'est une honte pour le peuple brésilien qui a toujours aimé et aime toujours le football et qui peut pas le commémorer, le fêter.
Quero passar com a revolta popular.
Je veux passer, me déplacer avec la révolte populaire.
Donc là il y a un barrage, ça y est, donc le cortège est arrêté. Il y a un barrage un peu plus loin avec les boucliers. Donc là, la fête est finie, là, hein, je crois. Ça va être ou l'affrontement ou la manif qui va se dissiper, ou un peu les deux, quoi. Selon les envies de chacun, d'en découdre ou pas. Et ça y est, là, on est à peine... Voilà, il commence à lâcher les gaz lacrymogènes.
On est encore loin du Maracana, mais les gaz lacrymogènes ont commencé à tirer. Il y a quelques personnes qui courent. Et je crois que c'est la fin du cortège comme on l'a connu jusqu'ici, quoi.
Tout le monde court dans tous les sens, on entend déjà les commentaires, on est dans les embouteillages, et c'est Argentine-Bosnie.
Alors le FanFest, ça, c'est la tête de gondole de la FIFA ici à Rio, quoi. Tous les sponsors sont là en première ligne, et ça permet donc gratuitement de projeter les matchs en direct FIFA, avec un écran géant incroyable, des couleurs, voilà. On se croirait sur Globo tellement les couleurs sont saturées. Oulala, ça marque et c'est formidable. On va se garer là quand même et on va se rapprocher. On a traversé toute la ville depuis le Maracana où il y avait donc la manifestation contre. Et ici, c'est la manifestation pour la FIFA.
Vive la FIFA. Tout à l'heure, c'était FIFA Go Home. Et maintenant,
c'est la home de la FIFA ici.
Ouais. Voilà. écoute ça, la rumeur.
Fini les hélicoptères.
Non,
vive
là,
la bonne humeur. Alors voilà, donc on est sur la plage, hein, la fameuse plage quand même de Copacabana, qui a été entre guillemets privatisée, ouais, mais c'est sponsor. Pas ça, mais voilà.
2, 4, 6, 8 sponsors et c'est tout. Allez hop.
Le FIFA Fan Fest.
Oh
Ouh là là, l'Argentine vient de marquer là. Voilà, on a bien fait de venir. Hein. On arrive au bon moment.
Bonjour.
Estás contento?
Si, estoy contento,
Voilà. Voilà, on est tous contents. L'Argentine vient de marquer le premier but.
Acaba de commencer à segundos.
Mais ça faisait quelques secondes que ça venait de commencer et l'Argentine a marqué le premier but. Bon, il faut qu'on essaie de trouver un bosniaque quand même. Daniel, il faut absolument trouver un supporter bosniaque pour avoir un équilibre. Sinon, on va encore avoir des emmerdes.
Volta, volta até Zico. Zico olhou antes para o Júnior. Lá vem ele caminhando. Prepara-se agora o Galo na chegada da área perigosa. Entregou a trave.
C'était La Coupe est pleine, un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao, traduction Anne Vigna. Merci à Caio, Marcello Nbundo, Laercio, Christopher Gaffney et Lucia Elena. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvalet et Jean-Noël Vélan. Au montage, Guy Vanctil. Une émission réalisée par Lucie Akoun et Franck Adherer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Eh bien, vous voyez, il fait beau et tout. Il va y avoir une manifestation sur les femmes incarcérées. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Et qui peut en dire plus?
Monsieur Bernard.
Et vous faites quoi alors vous?
Je suis technicien pour le Triolo Joe qui va jouer dans la salle juste à côté. Voilà.
Je vous remercie.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Tempête à Paris, dans le bois de Vincennes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?
Eh bien, nous allons évoquer à partir d'un spectacle Mysterioso 119 qui concerne les femmes détenues qui est joué au Théâtre de la Tempête. Nous allons évoquer la situation des femmes en prison actuellement.
Pourquoi les femmes plus particulièrement ?
C'est une partie, je dirais, oubliée de l'histoire des prisons. Les femmes aujourd'hui en prison en France sont 2000. 3,25% de la population des prisonniers sont des femmes. Et ces femmes, pour plein de raisons, on a tendance à ne les mentionner jamais. Leurs conditions de détention ne sont pas pires que celles des hommes, plutôt meilleures, puisque les établissements sont moins peuplés, sont des plus petits établissements avec plus de, je dirais, de proximité. Elles ne se plaignent pas d'une sorte d'inconfort habituellement. Oui. Par contre, elles vont souffrir de différents problèmes ou de différentes discriminations qui sont liées justement au petit nombre. Le fait qu'elles soient peu nombreuses fait que l'offre de formation va être moindre, l'offre de travail va être moindre. Le fait qu'elles soient mères pour beaucoup va faire peser sur elles un poids beaucoup plus important. Et la dernière chose, c'est que les hommes les visitent moins ou les abandonnent plus rapidement dès lors qu'elles font une peine longue. Elles vont se retrouver très isolées. Et vous avez ici Chantal Courtois qui a visité son mari pendant 40 ans en prison. 40 ans, hein. Mais il n'y a pas un homme qui va visiter sa femme de telle façon. Donc il y a une sorte d'accompagnement manquant pour les femmes qui se retrouvent isolées.
Et en quoi ça vous concerne, vous ?
Disons que moi, je suis sensible à la question de la femme ou de l'homme enfermé, de la personne privée de sa liberté. C'est un droit fondamental d'aller et venir. On conçoit à un moment donné légitimement qu'il soit empêché. Mais il y a une sorte de barbarie dans notre société qui fait indéfiniment considérer que les gens ne souffriraient jamais assez, que les sanctions devraient être de plus en plus lourdes et les gens se comportent comme des barbares.
Vous avez déjà été en prison ?
J'ai été détenu, oui.
Et c'est de là qu'est née cette envie de vous occuper de ceux qui étaient toujours détenus ?
Je ne pense pas. Non, je pense que c'est pas lié, ça a rajouté une couche. Ah oui. Je pense que si je suis allé en prison, c'est parce que j'avais déjà une attention, pas pour la personne détenue, mais pour la personne engagée. Et c'est mon engagement qui m'a conduit en prison.
C'est votre engagement pour les détenus qui vous a amené en prison ?
Non. Là, c'était la résistance à la militarisation.
Vous gardez quel souvenir, vous, de votre séjour en prison ?
Moi, j'en garde un beau souvenir. Ouais. Un souvenir fraternel. On était trois dans une prison Saint-Paul, une prison très vétuste, très surpeuplée.
À Lyon ?
À Lyon, dans un espace à l'ancienne. Et je suis le parrain d'un des enfants, d'un de mes co-détenus, que je ne connaissais pas en arrivant, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. La prison est un lieu peu fréquentable, mais on parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et moi en particulier, concernant la situation des personnes détenues. Mais le sort des personnes détenues n'est pas fait que de mauvais souvenirs. C'est aussi un lieu de partage, c'est un lieu de fraternité, c'est un lieu de solidarité, et les détenus savent se montrer solidaires. On en montre toujours le côté grossier, mais on fabrique des personnes qui nous font peur pour justifier la construction d'établissements qui vont rapporter de l'argent à des groupements privés. Ces groupements privés détiennent en même temps les moyens d'information. Donc plus on va fabriquer de la peur dans la société, plus on va justifier la nécessité de créer des lieux d'enfermement qui vont rapporter de l'argent aux mêmes. Et la boucle est bouclée.
Il y a un site pour ce mouvement ou cette association ? Non, il n'y a pas de...
Non, chacun est renvoyé aux associations existantes. Cette soirée, c'était un moment éphémère, lié à un spectacle, c'est destiné à s'arrêter. Mais après, les uns et les autres continuent leur combat habituel.
Bon, et vous, Denis, pourquoi vous êtes là ?
Je suis familier du milieu carcéral. Je suis jamais allé en prison moi-même, mais j'ai travaillé avec des mineurs incarcérés à la prison de Bois d'Arcy. J'ai passé un mois à faire un disque d'ailleurs qui s'appelle B0, avec une association qui s'appelle Pulsar. J'ai joué avec le groupe Lojo plusieurs fois, prison de Rion, prison d'Angers, etc. Je suis sensible à tous les propos tenus par Bernard Bols. Je ne serai jamais aussi éloquent que lui parce qu'il connaît très bien le sujet. Et moi, comme musicien, je suis solidaire de son propos. Et ma manière d'être solidaire, c'est de jouer de la musique. C'est pour ça que je suis venu. Et puis, je m'intéresse avec assez de tendresse aux causes perdues. Et par exemple, à ces choses qui heurtent pas grand monde, en fin de compte. La condition de ces femmes, comme vient de l'exprimer Bernard, l'heurte pas grand monde, et ça vaut le coup d'en parler.
Je vais vous laisser faire de la musique, puisque vous êtes venu pour ça.
Le temps qui passe sans rien dire, un temps de prochain, un temps de prochain, au revoir à demain.
Tabac Info Service, bonjour.
Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais arrêter de fumer, mais j'ai peur de pas y arriver toute seule.
Si vous voulez, je peux vous proposer d'être accompagnée par un de nos tabacologues.
Ah oui, ça m'aiderait, mais c'est payant ?
Non, en fait, seul ce premier appel est facturé 15 centimes la minute. Mais ensuite, le suivi fonctionne par rendez-vous. Vous serez rappelé gratuitement au moment où vous le désirez.
Ah, très bien. Je peux commencer maintenant ?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
France Inter, partenaire du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, les 3, 4, 5, 6 juillet 2014. Garden Party Pop Rock, le festival Beauregard ou la vie de château au cœur de la basse Normandie. Au programme de cette 6e édition, 2 scènes, 33 artistes pour nous faire passer des moments uniques. Stromae, Pixies, Agnès Obel, Damon Albarn, Blondie, Ayam, Chaka Ponk, Foster the People, Portishead, Fauve et bien d'autres. Retrouvez le festival Beauregard dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr. Stop.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est encore 16h. Le flash, Laetitia Gaillet.
Le Fonds monétaire international sape les prévisions de croissance des États-Unis. Aujourd'hui, selon le FMI, elle ne sera que de 2% cette année au lieu des 2,8% prévus jusque-là. La faute au ralentissement de l'activité et de la faiblesse du marché du travail américain. Dans son rapport annuel, le FMI préconise notamment aussi de relever le salaire minimum aux États-Unis. Le président ukrainien prône la trêve dans l'Est ukrainien, mais il faudra d'abord sécuriser la frontière avec la Russie. Et ce n'est qu'après cet objectif atteint qu'un cessez-le-feu pourra être mis en place. Petro Poroshenko l'a dit dans une déclaration aujourd'hui aux responsables de la sécurité ukrainienne. Mais dans l'est du pays, le climat est loin d'être apaisé. Des pro-russes occupent depuis ce matin un bâtiment de la banque centrale à Donetsk. Loin d'être apaisé aussi avec Moscou, puisque la Russie a décidé de stopper les livraisons de gaz. Gazprom continue de réclamer le remboursement de la dette de l'Ukraine, à savoir 4,5 milliards de dollars. Les négociations ayant échoué pour Gazprom, aujourd'hui, il n'y a plus matière à discussion. Doit-on tout faire pour être heureux ? Cela faisait partie des sujets philo du jour pour les bacs littéraires aujourd'hui. Les lycéens ont planché dessus pendant 4 heures et la première épreuve du bac général s'est donc finalement déroulée dans les temps. D'après le ministre de l'Éducation nationale, peu de lycéens sont arrivés en retard aux épreuves à cause de la grève de la SNCF. La SNCF qui avait mis en place un dispositif exceptionnel. Mais le mouvement, lui, n'est pas terminé. Malgré une reprise du dialogue avec la direction, les syndicats Sudrail et CGT ont reconduit la grève pour 24 heures et ils continuent d'appeler un rassemblement à Paris demain contre la réforme ferroviaire qui doit être débattue à l'Assemblée. Pour les intermittents, la journée d'action c'est aujourd'hui. Plusieurs milliers d'entre eux sont actuellement rassemblés place du Palais Royal à Paris, près du ministère de la Culture. Ils dénoncent les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Ils ne veulent pas que le gouvernement les valide. Or, c'est précisément ce que le gouvernement compte faire. Le texte devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Manuel Valls promet des décisions pour les intermittents d'ici la fin de la semaine, afin que les festivals de cet été puissent avoir lieu. À terme, le Premier ministre envisage aussi de réformer le statut en profondeur qu'il juge aujourd'hui à bout de souffle. Le conflit à la SNCF, celui des intermittents, voilà qui augure une conférence sociale agitée début juillet. Mais rien ne peut se faire sans les partenaires sociaux, c'est ce qu'a dit Manuel Valls aujourd'hui. Le Premier ministre a réuni l'ensemble des syndicats et des patrons pour esquisser les contours de la conférence qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains. Le procès d'un jeune homme accusé d'avoir tué un adolescent et d'avoir brûlé son corps dans un bois d'étouvant dans le Doubs s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs de Besançon. Procès à huis clos. L'accusé avait 17 ans au moment des faits en 2012. Le verdict est attendu vendredi. L'accusé en cours de 20 ans à la perpétuité. Pour Marc Machin, ce n'est pas un procès dont il est question, mais d'indemnisation pour avoir passé plus de 5 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. La cour d'appel de Paris devait examiner sa demande aujourd'hui de 2 millions d'euros d'indemnisation. Vous écoutez France Inter, il est 16h03 et hop, là, hop, je me retourne. C'est à vous Frédéric Lodéon. Allez,
merci
hop.
Chère Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Et oui, la voie artistique n'est pas facile, on voit cela avec le conflit des intermittents, bien sûr. Vivre, c'est se faire connaître, c'est se maintenir aussi, et quelquefois les concours servent à faire connaître justement les artistes, à les faire se dépasser aussi, parce qu'il y a une émulation dans les concours internationaux, comme par exemple le fameux concours Reine-Elisabeth de Bruxelles, qui est ancien, qui est connu, et on a reçu une somme d'enregistrement là, qui met en valeur les jeunes pianistes, puisque ça c'est le sujet qui nous occupe, du concours 2013. Je vous propose d'entendre tout de suite Boris Ginzburg d'Israël, qui est né à Moscou en 84 et qui a présenté une virtuosité sans faille, une belle énergie, une prestance, notamment dans le final du troisième concerto de Sergueï Rachmaninov. Thank you. finale du troisième concerto de Sergueï Rachmaninov, interprété par le gagnant du premier prix l'année dernière à Bruxelles, le concours Reine-Elisabeth Boris Ginzburg, était accompagné par l'Orchestre National de Belgique, dirigé par Madame Marine Alsop. Voilà, une très belle victoire, puis on vous parlera de ce concours ultérieurement. Il y a eu d'autres beaux candidats, notamment Rémi Genier, second, un Français, donc Cocorico. Et voici justement la France profonde avec Mireille de Charles Gounod, une farandole et chœur. Et tout cela pourrait évoquer Arles, parce qu'à Arles, il y a eu aussi un très beau concours, concours d'opéra. Ça vient de se terminer, puis on a des prix déjà, le prix femme, prix féminin pour Sang Ah-Yoon, soprano. Donc voilà que l'Asie est très présente dans les concours de chant aussi. Pour les instruments, c'est fréquemment que ça arrive, mais là aussi, les chanteurs-chanteuses. Homme, c'est Taelang Kim, ténor. Deuxième prix femme, c'est Perrine Madoff, donc soprano de France. Et puis le prix d'Adami, c'est Eleanor Pancrazzi, mezzo-soprano, prix du concours du centre de formation professionnelle lyrique, la même Eleanor Pancrazzi, mezzo-soprano. Et puis, prix du public, Héloïse Comgen Brami, ça c'est très important, le prix du public, parce que, évidemment, les critiques disent des choses quelquefois très intéressantes, très importantes, mais c'est généralement le public qui décide d'une carrière.